France Inter, franceinter.com.
Le fou du roi.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Fou du Roi. Avec nous ce matin, Didier Gustin.
Bonjour.
Frédéric Martin.
Bonjour.
Agnès Michaud. Bonjour. Julia Verne.
Bonjour.
Entourant Eric Neuhoff. Au menu de l'émission, nous recevrons dans un instant la chanteuse, la divine chanteuse que devrais-je dire, Elena Noguera. Pour son nouvel album Fraise Vanille, nous entendrons également Paul Persson et Hubert Félix Thiéfaine.
Oui, un beau programme, ensemble, c'est
À midi 5, Didier Porte, et ensuite la chronique sportive du vendredi de Daniel Morin. Enfin, c'est pas trop sportif, c'est plus chronique que sportif, hein, je le dis pour l'invité. Avec nous également, Franck Gélibert, pardon, au piano. Je vous le dis en toute confidence, son éditeur a dû supplier cet écrivain discret qui a publié certes 60 livres, dont certains remarquables ne lui en déplaisent, pour qu'il consente enfin à parler de lui et qu'il accepte de publier ses mémoires. Il est vrai que cet ascète, refusant de s'exhiber comme tant d'autres sur les plateaux de télévision, n'a jamais cherché les feux de la rampe et a toujours fait preuve d'une étonnante modestie, refusant de dire du bien de ses romans, voire même de citer de manière complaisante les dédicaces plateuses des grands hommes qu'il a croisés sur sa route. C'est aussi par modestie sans doute que dans son livre, il préfère ne pas aborder trop à fond sa période Mao, lui qui a basculé dans un jeu d'allégeance alternative dans la poche de Mitterrand avant de rallier Balladur, puis Ségolène Royal en même temps que Benoît XVI allait comprendre.
Et Adolf Hitler, Mussolini, Staline.
Vous l'avez reconnu, celui que l'on surnomme parfois l'Ulysse Bordelais, petit joyau de Gironde, matiné de Vénitien.
Il
publie ses mémoires, c'est un vrai roman. C'est Philippe Soler, c'est notre invité. Ouais.
Stéphane aussi inspiré.
Ah, il m'inspire, Philippe Soler.
Et d'ailleurs, il faut ajouter tout de suite que le fait que j'aille chez Stéphane Bern est très mal pris.
C'est très mal pris. Dans l'Express.
Il est infâme que quelqu'un puisse à la fois lire Bossuet, vous avez lu ça, et aille chez Stéphane Bern, si lire Bossuet devait interdire d'aller chez Stéphane Bern, et comme si tout le monde chez Stéphane Bern ne lisait pas Bossuet. Or, tout le monde lit Bossuet ici. Voilà.
Et Bossuet n'avait rien contre Stéphane Bern.
Non, l'Express est devenu un torchon, il faut bien le dire.
Je reconnais que c'était le titre, c'était Bossuet chez Stéphane Bern.
C'est flatteur.
Oui, c'était flatteur. En même temps, ça voulait dire c'est ce qui est le plus indigne.
C'est un peu idiot, surtout.
Oui, c'est vrai que ce livre aurait pu, vous avez raison Stéphane, s'intituler « Moi, Philippe Joyau, un vrai trésor
». Ou alors « Le musée Guillemet
». Parfait chinois.
Mais alors, il y a des surprises.
Il y a des surprises, oui. Alors Agnès...
Effectivement, non, mais c'est un peu embêtant d'en parler, parce qu'effectivement il y a une satisfaction de soi que je ne juge pas. C'est pas dans mon caractère. Et effectivement, vous citez des dédicaces d'auteurs célèbres. Et moi, ça me gêne toujours un petit peu. Mais bon, pourquoi pas?
Pourquoi pas? Surtout que tout le monde ne les a pas. Voilà.
Exactement. Et il y a des surprises émouvantes. Le seul reproche, je reviendrai plus tard sur la surprise émouvante, vraiment, qui m'ont vraiment émue. Mais vous vous arrêtez parfois là où on aurait envie que vous développiez. Par exemple, quand vous parlez de la brouille avec Francis Ponge, poète, hein, pour nos auditeurs les plus jeunes qui n'auraient pas lu. On apprendrait beaucoup de vous et beaucoup de Francis Ponge, à savoir, même si c'est sur une futilité, pourquoi un jour vous êtes envoyé des injures à la figure et que vous êtes brouillé.
Oui, ben alors voyez-vous, là, si je développais, comme vous dites, c'est gentil d'ailleurs de penser que je pourrais développer, nous développerons peut-être tout cela ensemble, si vous voulez.
Sébastien.
Si je développais, ça ferait un livre alors de 2000 pages, déjà avec 350, on me reproche de les avoir écrites, alors vous vous rendez compte.
Mais ce qu'il y a chez vous, qui est un peu la même chose que cette satisfaction.
Faut aller vite, quoi.
Quand on écrit ses mémoires, il y a un moment, c'est bien de s'arrêter. Vous êtes un écrivain malade, en fait. Vous avez été souvent malade. Oui. Vous avez eu beaucoup d'otites. Et c'est très intéressant. Mais oui. Moi, ça me fait penser au début dans
Mais attendez, développez un peu, parce qu'il faut, il faut que le public soit ému.
Justement.
En effet, je suis un grand malin.
Mais
je me suis surmonté, vous
voilà
comprenez.
Et ben, ouais.
Non, mais vous voyez, moi, ça me fait penser au début des Carnets du sous-sol. J'ai une maladie du foie. Ben, c'est important pour le personnage.
Absolument.
Oui, sauf que vous apportez...
J'aimerais beaucoup qu'on en parle.
Moi, je trouve que sur la maladie, justement, alors. On vous comprend, parce que vous dites, je tombe malade, mon corps a ses raisons. Je trouve qu'on comprend bien justement votre façon d'être. C'est-à-dire que vous êtes là, vous acceptez la maladie, oui. Vous dites je suis née, j'ai décidé de faire la grève assez tôt, donc vous tombez malade. Et on sent bien justement cet optimiste en même temps et ce refus de vous laisser aller dans...
Oui, c'est le bon usage des maladies, c'est-à-dire, voyez ce que j'ai fait. Je me suis rendu compte tout de suite que je ne voulais pas être comme les adultes qui m'entouraient. Et alors les adultes au-delà, c'était vraiment pour moi impossible de vivre comme eux, d'être comme eux. Donc je me suis arrangé, en effet, ça s'est passé très simplement, pour être presque tout le temps malade, ce qui fait que, premièrement, ça me permettait d'être seul dans un endroit protégé. Deuxièmement, de ne pas aller à l'école. J'ai séché à peu près toutes mes études, j'ai recopié très vite des trucs de copains, je ne sais même pas comment j'ai fait. Et puis ensuite, de prendre les adultes en otage, parce que si vous êtes malade, vous pouvez devenir exigeant, c'est-à-dire vous faire offrir ceci, cela, avec des petites crises. Non, c'est du bon usage des maladies. Alors, ils étaient tous en bonne santé, mais pour faire quoi ? Rien. Tandis que moi, pendant que j'étais malade, oulala, la poésie, germé en moi.
Mais oui, non, mais vous avez
et vous
raison,
vous posez la question, comment ai-je fait sans rien faire pour poursuivre des études plutôt correctes ?
Oui, c'est ça.
Ne jamais redoubler.
Ne jamais redoubler.
Et vous retrouver à l'ESSEC.
Que j'ai quitté aussi, parce que j'ai toujours été renvoyé, en fait.
Ah, finalement, oui.
Oui. J'ai été renvoyé, mis à la porte presque partout. C'était d'ailleurs mon désir le plus fort. D'être renvoyé.
Votre vrai désir, c'était de faire le chimpanzé sur le rebord des fenêtres pour
alors
amuser
ça,
les filles.
J'ai l'écriture des professeurs, esprit frondeur,
oui.
Passerait très dissipé, passerait son temps à se promener en études, fait le chimpanzé sur le rebord des fenêtres pour amuser les filles.
Alors, chez Gallimard aussi, vous continuez ?
Tout à fait. C'est connu, c'est archivé.
Mais vous avez gardé...
Il y a même des vidéos.
Mais ce qui m'a impressionné, moi, vous avez gardé tous ces documents, les mots de vos professeurs
tout. Absolument, tout ça sera à la Bibliothèque nationale de France.
Au Panthéon, dans la
Pléiade. Lors de la grande exposition qui me sera
quand on saura encore lire, voilà. Si on sait encore lire. Non, mais c'est vrai, vous avez gardé tous ces documents,
les plus drôles en tout cas.
Les plus drôles.
Le chimpanzé, c'était quand même à garder. Donc,
voilà. Mais alors, quand votre maison d'enfance, par exemple, est détruite, vous dites que c'est un triomphe.
Parce que comme ça n'appartiendra pas à d'autres. Et donc ça a été rasé. C'est une magnifique maison avec une particularité parce que deux frères épousent deux sœurs, vivent dans deux maisons symétriques où chaque pièce d'une des maisons répond à chaque pièce de l'autre. Les chambres à coucher séparées par un mur. C'est quand même un climat étrange avec un grand parc. Bon. Alors c'est des industriels, ils ont fait faillite. Et donc tout ça a été rasé. C'est maintenant un supermarché que j'ai visité une fois pour écrire dans un roman.
Qu'est-ce qu'il y a comme livre au rayon ?
Il n'y a rien. Il n'y a pas de livre.
Non, mais donc voilà. Vous êtes
il y en avait beaucoup chez moi, mais j'étais très surpris de voir que les adultes ne s'en servaient jamais. Donc c'était ma propriété. Ils ne lisaient rien. D'ailleurs, ils lisent. C'est le fond du problème. Qui lit quoi encore ? Oh là là. Bon,
vous dites que la littérature. Non, parce qu'il y a des choses aussi très intéressantes dans votre livre. Pas seulement les choses qui vous concernent, même si on peut.
La littérature est toute ma vie.
Et vous dites que la littérature est menacée de disparition.
Je crois, mais ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date. Je suis en train de lire, je vous le conseille d'ailleurs à tous, de lire le tome 5 de la correspondance générale de Flaubert. C'est tout à fait extraordinaire. Il se plaint constamment de la bêtise qui l'entoure. Il y a cette phrase merveilleuse, la bêtise m'écrase au point que je me sens comme une mouche portant sur son dos l'Himalaya. Vous imaginez, c'est ça. Et alors, il parle tout le temps de la sacro-sainte littérature. Il se prend lui-même pour un saint. C'est un saint. Il ne pense qu'à ça. Alors, autour de lui, il n'y a qu'ignorance, que bêtise terrible. Nous sommes à la fin du 19e siècle. La bêtise, c'est le grand sujet, la bêtise. Voilà. Et donc, en effet...
Et vous vous sentez comme Flaubert en son temps ?
Ben, écoutez, oui, comme beaucoup de gens, très isolés. Alors, c'est pour ça, d'ailleurs, que pour briser cette solitude effrayante...
Vous sortez de temps en temps.
Je vais chez Stéphane Bern, le nom de Dieu. Voilà, ça me détend, je suis ravi de vous voir.
Amenez Bossuet la prochaine fois.
Il est là. Je l'ai en duplex.
Nous sommes encore une des rares émissions. Nous sommes encore une des rares émissions à savoir qui est Flaubert.
Oserais-je ouvrir un cercueil devant la cour? Voilà. Ah, c'est du grand Bossuet.
Ah,
et alors, vous voyez, ce type avait du talent, de pas, oui. Il surplombait tout le monde, les rois, les maîtresses, les courtisans, et il leur parlait de la mort. Oserais-je ouvrir un cercueil devant la cour? Vous voyez tout de suite, oui. Amenez-moi un cercueil, je
et
vous fais Bossuet.
Mais vous en parlez, vous parlez de votre mort dans le livre.
Oui. Vous espérez
je dis où je serai enterré. C'est oui. un endroit d'ailleurs délicieux. C'est dans l'île de Ré, c'est dans un petit cimetière. Et ma tombe est prévue tout près d'un carré de... Ah, c'est très émouvant.
Et à quel âge vous avez commencé?
D'un carré d'aviateurs, vous savez, qui sont morts là en 1942, qui viennent tous. Les corps n'ont pas été réclamés. Ils venaient tous d'Australie ou de Nouvelle-Zélande. Oui. Ils ont 22 ans. Ils se sont fait abattre au-dessus de l'île de Ré pendant que les Allemands rasaient les maisons. Là encore, les
donc tout ça, vous l'avez écrit, vous l'avez écrit parce que vous dites, j'espère, j'accepte comme prévu qu'on enterre mes restes au cimetière d'Ars-en-Ré, qui deviendra, je le suppose, Solaire sans Ré après votre mort.
C'est Solar sans Ré, oui.
Ça sonne bien.
Vous ne voulez pas être enterré à côté de Madeleine Chapsal?
Je ne sais pas de qui vous parlez.
De qui vous parlez.
Qui est cette dame? Mais l'ultime consécration, c'est la Pléiade.
Je préfère les anonymes. J'adore l'idée de corps. J'adore l'idée de corps non réclamés. Hein, vous savez que si vous allez de l'autre côté de la planète, là, tout de suite, vers la verticale, vous savez où vous débouchez? Aux antipodes.
Oui.
Quelqu'un le sait?
Mais
personne.
Vous allez nous le dire.
Oh, à Auckland, en Nouvelle-Zélande, exactement, à l'instant même où nous parlons. Alors voilà des pilotes qui sont venus mourir là, pour se battre.
Enfin, corps non réclamé, c'est valable pour la mort, mais dans votre vie, on vous a beaucoup réclamé.
C'était beaucoup, c'était probablement trop cher pour les familles.
Je vous propose de poursuivre en musique. Nous recevons Hubert Félix Thiéphen et Paul Persson. Ces deux icônes étaient parties pour composer et écrire pour Johnny Hallyday. Et finalement, ben voilà, ils ont décidé de faire un album ensemble. Le poète Hubert Félix s'est pris dans les cordes de Paul l'espace d'un été. Paul Persson délivre alors de puissantes mélodies à Thiéphen qui posent ses amères et douces mélancolies. Dans leur album Amicalement Blues, ils choisissent la force des textes, la pureté du son, l'intimité, l'envie d'être ensemble. Et Avenue de l'amour, c'est le titre qu'ils viennent nous interpréter ce matin en direct dans le Fou du Roi. Voici Hubert Félix Thiéphen et Paul Persson.
Chagrin et tout ce blues. n'étions que des survivants. Nos histoires noires, nos nuits blanches, plantées en plein manque de tout, cherchant le jour, avenue de l'amour.
Merci Hubert Félix Thiéfaine et Paul Person. Je vous rappelle le titre de leur album, Amicalement Blues. Toutes les informations les concernant sont sur le site du Fou du Roi, sur franceinter.com et sur leur propre site amicalementblues.fr. Nous sommes évidemment toujours avec Philippe Solers qui publie un vrai roman, bah c'est un peu l'avenue de l'amour, un vrai roman, c'est-à-dire ses mémoires, puisqu'il avait toujours dit un vrai roman c'est un livre qui se lit comme on regarde un film, et en voici un, mais il s'agit de mon existence réelle, c'est publié chez Plon. Nous retrouvons tout de suite Frédéric Martin.
Un poète.
Je vais vous raconter une histoire incroyable. J'étais chez des amis, porte de la Muette. Juste avant le dessert, je me lève de table et demande poliment où se trouvent les toilettes. Dans une salle de bain, au curieux carrelage, je sors de ma braguette, mon sexe en col Mao. Oh, oh, oh. Je tire la chasse, je me retourne, et là j'ai un blocage. Je vois d'autres WC. Imaginez le tableau. Deux toilettes en face à face, et rien pour séparer. D'abord je trouve ça classe, ensuite je trouve ça fou. J'imagine mes amis dans leur intimité. Poussons, joue contre joue. Poussons, joue contre joue. Tiens, envoie-moi le PQ. C'est toi qui as fait ce bruit. Après 10 ans de couple, il n'y a plus de tabou. Et c'est entre deux ploufs qu'ils se racontent leur vie. Poussons, joue contre joue. Poussons, jour contre jour. De retour à la table, je ne sais plus où m'asseoir. Je suis déboussolé, indigestif m'attend. Je regarde mes amis, je me dis c'est des barbares. Et là je me souviens qu'en plus ils ont des enfants. J'ai une vision d'horreur, est-ce qu'ils font ça ensemble? En couple c'est leur problème et avec leur morveux. Mon âme se liquéfie et tout mon corps en tremble. Et j'imagine la scène où ils font ça entre eux. Viens, découvre avec papa les plaisirs démodés. T'as eu un 4 en maths, mais c'est pas bien du tout. Ah tiens, voilà ta mère, elle va prendre le bidet. Poussons, joue contre joue. Poussons, joue contre joue. D'un côté il y a l'odeur, mais dissocié du bruit. Check les rhinocéros, même s'ils sont pas comme nous, communiquent via leur selle pour se raconter leur vie. Pardon, mais ça me rend fou. Pardon, mais ça me rend fou. Non mais c'est vrai, c'est des malades, c'est juste l'intimité quoi. Moi en général aux toilettes je lis des livres, D'ailleurs j'ai beaucoup aimé votre dernier ouvrage Philippe. Il est juste un peu long, 350 pages. Je suis resté au cabinet 2 jours. Voilà. Sinon j'aimerais dire que les toilettes de Radio France sont bien mais un peu trop modernes pour moi. C'est-à-dire qu'il y a une lunette et sur la lunette il y a un film en plastique. Et quand on appuie sur le bouton, ben ça change de film en plastique. Comme ça. Comme ça c'est plus hygiénique. Moi je me suis d'abord assis, ensuite j'ai appuyé sur le bouton et paf, je me suis pris le mur. Bon appétit.
Frédéric Martin. C'était affligeant, faut bien le dire, j'ai détesté. Elle est à chier votre chronique. Si je puis me permettre, Frédéric.
Pardon.
Non, elle passe pas. Voilà, on peut aller voir Frédéric Martin sur scène tous les
deux. Il faut consulter.
Oui, là, je crois qu'il est malade.
D'abord, il faut consulter. Et ensuite, il y a quand même un magasin merveilleux près de chez moi que je vous indiquerai sur l'hygiène japonaise. Élégance suprême.
Alors, on peut aller voir Frédéric Martin tous les dimanches et lundis à 20h15 à la Comédie de Trois Bornes à Paris.
Et on vous récite du Solaire dans
l'oreille. Dans l'oreille. Très bien.
Oh, vous savez, de Jonathan Swift dans Le Voyage de Gulliver, les You and Him, c'est un petit peu.
Voilà. Mais au fond, comment ça vous a pris un matin de vous dire voilà, je vais écrire sur ma vie, Philippe?
Oui. Eh bien, écoutez, je trouve que ma vie a un certain intérêt, du moins pour moi.
Mais vous avez pensé qu'elle en avait aussi pour les autres.
Je voudrais revenir un peu sur ce que madame a dit tout à l'heure. Oui, je vais développer un peu. Être satisfait, non, ce n'est pas le mot satisfait qui convient, excusez-moi. C'est le fait de se mettre devant la chose suivante, qui est, à mon avis, qui doit arriver à tout le monde un jour ou l'autre. C'est, est-ce que je revivrai ma vie exactement de la même façon, hein, pour l'éternité? C'est ce que Nietzsche appelle l'éternel retour, excusez-moi d'amener ce penseur admirable. Est-ce que je revivrai ma vie de la même façon, obstacles, souffrances, douleurs, maladies, gaieté, clairière, amour, etc., ou pas? Voilà, c'est ça, donc je réponds,
et, dans le livre,
et moi je dis oui. Or, c'est pas évident de dire oui, est-ce qu'on revivrait sa vie? La plupart des gens, à mon avis, préfèrent se résigner à disparaître, à mourir. Il y a une grande envie de mourir, en général. Il y a une grande dépression, vous ne trouvez pas, moi je trouve. Je vois beaucoup de gens qui ne souhaiteraient plus revivre leur vie, voilà. D'autant plus que, et parfois, ils sont dans le besoin réel. Mais, moi, j'approuve tous les mouvements sociaux qui pointe le doigt sur la misère. Et en effet, je suis un privilégié. Alors maintenant, quant aux dédicaces, il faut faire un tout petit peu d'histoire malgré tout. C'est pas par vanité. C'est pas par vanité. Non, parce que je crois que c'est un certain intérêt. Ce sont les dédicaces, les gens qui m'ont fait ça, qui m'importent. C'est pas les dédicaces. Alors il se trouve que j'ai rencontré en effet beaucoup de gens très très intéressants.
Moria, voilà, Caragon, André Breton qui vous touche.
Alors Breton, c'est vrai, c'était vraiment pour moi à l'âge de 15 ou 16 ans l'admiration absolue. Alors, c'était le surréalisme, c'était Breton. Alors c'est vrai, la dédicace que quand je reçois, il aimait bien mon premier livre, on s'est vu deux trois fois. Breton, mais Breton, c'était vraiment, c'est une sorte de dieu.
Aimé des fées.
Et alors il m'envoie la réédition des Manifestes du surréalisme au début des années 1960. Ah, machin, c'est moi. oui. Aimé des fées, F-E-E-S. Bon. Alors, signé André Breton. Mais vous voyez, c'est pour moi, c'était une
mais chose. Mais j'imagine que c'est.
C'était une chose merveilleuse. Bon, puis Mauriac, Breton, Aragon, qui lui aussi, enfin, me dédicace. Il a compris, Aragon, que, en effet, il voulait Mauriac, tout ça, Breton, Aragon. Il voulait revivre leur jeunesse. Il trouvait que l'époque où ils étaient était terrible. Il voit arriver un garçon.
Vous étiez leur jeune homme, un peu.
Oui, j'étais un peu. Comme si j'allais rallumer le flambeau, ce que j'ai fait d'ailleurs. Et donc,
modestement, en toute modestie.
Oui, mais non, pas du tout modestement, il n'y a aucune raison d'être modeste, ce sont des faits historiques.
Oui.
Voilà.
Donc,
j'ai réussi à foutre un certain bordel dans la littérature française.
Mais vous continuez.
Il disait une curieuse solitude, c'était pas mal du tout.
Oui. Écoutez, là, voilà, il y a eu de grands articles, en effet. J'ai 21 ans.
Il y a vraiment de très bonnes pages. Alors, il y a des pages. Évidemment, la polémique, vous la relancez, cher Philippe. C'est page 57, parce que vous partez d'une idée qui est intéressante, évidemment.
Qui sera développée.
Montre-moi ton enfance et ton adolescence, je te dirai qui tu es.
Et c'est exactement.
Vrai fond,
voilà.
On tourne toujours autour de cette idée qu'on ne guérit jamais de son enfance. Vous parlez de Günter Grass, dont on va parler dans un instant.
Bien sûr. D'abord, je crois que tout se joue
dans. Écrivain quoi, Mina vient écrire dans le livre.
Je crois que tout se joue en effet dans l'enfance et que la plupart des adultes, même la grande majorité des adultes, sont des enfants ratés. Ce qui leur donne d'ailleurs une curieuse attitude par rapport aux enfants en général, une sorte de ressenti. Ils se vengent beaucoup sur les enfants. Les pédophiles, par exemple, sont des enfants ratés qui veulent satisfaire quelque chose.
Qui eux-mêmes ont été martyrisés dans leur enfance.
Donc, etc. Toute la mécanique de reproduction désormais autour de l'enfant, du désir d'enfant, etc. Vous aviez récemment, dans Libération, une enquête sur un gynécologue violeur, qui est très intéressant, parce qu'on voit à quel point là, il peut y avoir une oppression, une prise en main des femmes sur ce désir fondamental. Voilà, l'enfance, tout se joue. Alors, moi, je pense, là, je m'attarde un peu, que j'ai eu d'enfance un peu enchantée, comme ça, dans une grande perturbation, parce que c'était quand même pendant la guerre. Avec les Allemands qui avaient déboulé dans Bordeaux, etc.
Bon. Alors, à propos d'un Allemand, vous parlez de Günter Grass, qu'on se pose la question toujours, comment ses engagements à 17 ans.
Alors, à 17 ans, je dis, la chose est très simple, n'est-ce pas? Il faut que chacun, tous les responsables, disent qui ils avaient envie de baiser, à part eux-mêmes, ce qui est souhaitable d'ailleurs, à l'âge de 17 ans. Voilà. Donc, s'engager dans les Waffen-SS, de façon plus ou moins, je ne sais pas, engagé de façon militante, il a voulu échapper à sa famille, il est rentré dans les SS.
C'est
exactement comme si moi, à 17 ans, j'avais eu l'idée de m'engager dans les parachutistes pour animer un petit peu la gégène, la torture en Algérie, vous voyez. Ce qui ne me serait pas vraiment venu à l'idée. Parce que
ça a failli vous arriver à cause de Jean Eder.
Non, ce qui a failli m'arriver, c'est que je crève dans les hôpitaux militaires. C'est autre chose, c'est exactement le contraire. Donc, voilà. Donc, j'ai mis 3 mois assez difficiles à obtenir une réforme. Je ne voulais à aucun prix faire cette guerre. Donc, il y a là, je trouve qu'à 17 ans, on est parfaitement animé de certains désirs.
Il y a parfois des tilleuls verts sur la promenade.
Günter Grass, il avait envie de baiser des militaires, point. Voilà. Et ben pas moi.
Et ben voilà. Voilà.
Je ris en passant,
écrivez-vous dans un sous-marin.
Je ris en passant, écrivez-vous des révélations de ce médiocre écrivain allemand Günter Grass, ouais. Prix Nobel de littérature, avouant qu'il était
vapeur. Grande conscience social-démocrate, oui, pendant très longtemps.
Oui.
Mais d'ailleurs.
Tout à coup, ça sort. Il est très âgé. Les écrivains vieillissants sortent parfois des choses.
Peut-être qu'à 90 ans, vous allez publier des choses indignes.
Non, parce que je laisse ça. Il y a Rob Grier qui s'occupe de ça. Il a 45 ans. Il vient de publier un livre absolument semblable. D'ailleurs, publié sous préservatif par son éditeur.
C'est vrai.
Et donc là, je crois quand même que membre de l'Académie française comme il est, il aurait pu s'épargner de tomber dans une telle sénilité.
Oui.
Je trouve sénile toute vieillardise qui s'accroche au sexe. Je crois quand même qu'il faut prendre tout ça avec distance.
Il y a des choses très réjouissantes dans votre livre. Vous parlez de François Mitterrand. Des portraits de femmes, évidemment, d'abord de la vôtre, celle qui vous accompagne depuis longtemps.
Oui, les mariages considérés comme un des beaux-arts. Voilà,
oui. Vous parlez de Florence, de Venise, qui sont telles des femmes que vous avez aimées passionnément depuis 1963.
Absolument. J'ai vécu incognito à Venise pendant près de 40 ans, dans un état d'extase complète. Voilà.
Et puis une chose, moi qui m'a bouleversée pour des raisons un peu personnelles, mais il y a un chapitre consacré à la sœur d'Arthur Rimbaud. Et ça m'a beaucoup touchée, ça m'a fait extrêmement plaisir. Le hasard a voulu que j'ai relu Les Illuminations parce que je commençais un livre, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours fait ça depuis que j'ai 13 ans.
Ben oui.
Et j'ai relu les lettres d'Isabelle Rimbaud. Et vous lui rendez un hommage mérité parce qu'il faut la considérer, on comprend mieux. Et ça, pour un adolescent, je trouve, c'est un moment, et vous avez toujours défendu Rimbaud. Voilà, là on comprend tout d'un coup comment la lecture, ça peut changer la vie. Et quand on lit Génie, qui est le dernier texte des Illuminations, la vie change.
Et vous avez remarqué que chaque fois qu'on lit les Illuminations, on les lit pratiquement pour la première fois, chaque texte. Ça arrive avec très peu.
Parce qu'on saute pas les mêmes passages à chaque fois.
Non, mais.
J'aime bien le cynisme d'Éric, moi. Ça m'enchante.
C'est
tellement. C'est ce que disait Barthes de Proust. Hein,
oui, mais Proust, c'est un peu long parfois. Tandis que Rimbaud, c'est une condensation. Moi, j'ai plusieurs éditions des Illuminations dans des typographies différentes.
J'imagine.
Et donc, ça permet de. C'est comme de la musique, c'est-à-dire ça sort avec une intensité considérable. Génie est en effet le dernier publié. Mais
alors, retrouvons maintenant Didier. Gustin.
Ah.
Salut tout le monde, c'est Chirac. Salut, ça va Berne?
Oui, ça va.
Désolé de venir vous déranger, comme je connais votre réputation d'escroc notoire. Tout le monde sait.
Écoutez, comment c'est pas
un trafic de teckel.
Mal placé pour donner des leçons. Hein.
Okay. Pourquoi? Je sais pas. Souvent, je fais des petits examens. Je me suis dit, allons voir à quoi ça ressemble un voyou quand ça n'a pas la tête de Pasqua.
C'est très bien.
Allez, vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Hein? Quelle honte. Me faire ça, moi. Un pauvre fonctionnaire à la retraite. Oh, au départ, moi je ne savais pas que Xavier Simeoni, c'était un juge. Un juge avec un nom corse. C'est bizarre, c'est louche. Je me suis dit, ça doit être une poulette qui connaît ma réputation de marteau pilon et qui veut tâter de l'étalon corrézien. Ah ça, je peux vous dire que j'ai eu l'air con quand je me suis retrouvé dans son bureau avec le pantalon sous le bras et les grelots à l'air. J'ai eu l'air con. Con comme un Juppé. 2 heures plus tard, elle me dit que j'avais, soit disante, détourné des fonds publics quand j'étais à la mairie de Paris. Mais moi, l'argent public, il est à tout le monde. Donc, il est à moi aussi. Hein? Je n'ai tout de même pas détourné des fonds privés. Je ne suis pas un voleur, moi. Bref, je me retrouve donc inculpé comme un vulgaire élu de la région PACA. Et quand je lui ai dit, mais ma réputation est pensée, ma réputation, elle m'a répondu, t'auras qu'à faire la tournée des enfoirés. Alors du coup, je me suis dit que je vais suivre son conseil et en profiter pour expliquer aux élus mon programme futur. Vous allez me dire, mon cher Stéphane, ce que vous en pensez. Voilà. S'il vous plaît, la technique, on va faire un petit essai. Chèque, chèque son, chèque. Même en liquide, je préfère. 1, 2, 3, 4. Ok, c'est bon. On y va. Ah, là, là. ça pète, hein. Moi, je file la rancard à ceux qui n'ont plus rien, ceux qui se sont fait gauler, ceux qui sont pas malins. Pour acheter la justice, il faut plus de pognon, de corruption active, de fausses facturations. La 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 la. Non, c'était pas Bernadette qui devait le faire, mais oui. Aujourd'hui, on n'a plus le choix. Il faut donner aux magistrats, dépasser le chacun pour soi. Pour tous les élus, un seul combat. Quand tu détournes des fonds publics, à chaque parti, tu donnes du fric. Notre liberté, notre espoir, on l'achètera avec les caisses noires. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de la jouer solo, chacun pour soi. Il faut qu'on mette tous en commun notre argent sale, nos pots de vin. Avec, on achète la justice, et puis le reste, on le planque en Suisse. La loi, c'est pour les électeurs, pour nous, l'argent et l'argent du beurre. Aujourd'hui, on n'a plus le choix, faut donner plus aux magistrats. En attendant, tout ça, ça sent pas très bon. Mais je m'en fous. Chez les gaullistes, on a toujours eu le sens du panache, de la formule. Il y a 67 ans, le général de Gaulle, depuis l'Angleterre, disait « ici, Londres ». Eh bien, l'année prochaine, peut-être moi, depuis ma prison, je dirais « ici, Londres ».
Didier Gustin, qui est en spectacle à Épinal, à la Louvière, le 7 décembre, avec son spectacle En chair et en os. Philippe, on en est où avec vous politiquement, là ?
Écoutez, je ne crois pas que ce soit
fais un sujet. Fais gaffe, Philippe, ton boulot.
Oui.
Je vous ai connu avec. Par Mitterrand.
Attendez, je vous parle de Lola, moi. Je crois aux forces de l'esprit.
Ah bah attendez, vous y croyez d'autant plus que Victor Hugo, Victor Hugo vous
je
parle
aux forces de l'esprit et je ne vous ai pas quitté. Attention.
Je suis là, je reviendrai.
Attendez, moi j'en peux plus de cette émission.
On ne se débarrasse pas comme ça.
Hein. Il y a des revenants.
La grande différence entre Mitterrand et Chirac, je vais vous dire, c'est que Chirac n'a jamais pu prononcer mon nom. Il me disait toujours « Bonjour cher maître ». D'abord j'ai horreur de ça. Puis là, alors, monsieur Solaire. Il n'a jamais pu prononcer le
bonjour, S Chira. À la fin. Non, c'était à gauche, alors des vaches de salaire.
Alors que Mitterrand, attention, il se mettait à lire Casanova. Il pensait que Venise était une ville habitée.
Et il pensait que chez vous, vous organisiez aussi des.
Oui, maintenant, il m'a demandé. Vous avez, oui,
il était déçu.
Et alors, vous êtes dans l'île de Ré, hein, voilà. C'est ça. Oui. Je voyais qu'il pensait qu'il y avait, il y avait des orgies possibles la nuit. La chose qui m'a intéressé chez Mitterrand, c'est la première fois où on était vraiment. C'était chez les Gallimard d'ailleurs. Alors, il s'assoit sur un canapé à côté de moi et me dit voici le terrible monsieur Solaire. Et il me prend le bras et il me dit j'espère que vous faites attention à votre santé. Et alors j'ai eu quelques instants de doute, parce qu'il y avait le sida, tout ça, et je me suis dit, il va m'offrir des préservatifs. Non, il voulait qu'on parle de Casanova.
C'était
juste un
de ses livres.
juste un mot, parce que vous écrivez page 261 à propos d'un article qui avait fait polémique sur la France moisie.
Oui.
Comme me l'a dicté récemment Victor Hugo, par table tournante. Posez quand même, posez.
Oui, pour ceux qui ne sauraient pas, vous avez a écrit un livre qui s'appelait Les tables tournantes, où il parlait.
Il faut rappeler qu'il est mort aussi. C'est un monsieur qui a écrit très bon livre qui est mort. La France était très moisie, elle méritait Sarkozy.
Oui, absolument.
Voilà ce que vous, voilà ce que vous écrivez.
Non, c'est du pur Victor Hugo. C'est du Victor Hugo par table tournante. C'est un distique. Très beau.
D'ailleurs, vous rigolez, mais les forces de l'esprit, vous y croyez à mort.
Pas du tout.
Bon,
je crois uniquement aux forces de mon esprit.
Bon, ça, c'est par modestie que vous le dites.
Absolument.
Nous allons. Pour la modestie, je ne crains personne.
Absolument. Et nous je allons... m'en vante.
Nous allons recevoir maintenant la chanteuse Elena Noguera. Parmi les albums singuliers et séduisants que cette artiste a publiés, nous avons pu découvrir de la bossa nova avec Azul, du jazz hypnotique né dans la nature et de la folk soul avec Bang. Aujourd'hui, avec Fraise Vanille, Elle relève avec fantaisie le défi de reprendre des chansons célébrissimes, évidemment écrites par Serge Rezvani. Avec Seb Martel à la réalisation, elle nous replonge dans Le Tourbillon et autres chansons que le surnommé Bastiat, c'était son pseudo au moment où il les a écrites, jouait dans les années 60 à la guitare devant ses amis François Truffaut, Jeanne Moreau, qui les a souvent reprises, et Boris Vian. Et La vie s'envole, c'est le titre qu'elle vient nous interpréter avec Franck Gélibert au piano. Ce matin, dans Le Fou du Roi, voici Elena Noguera.
Les amis aiment les femmes à hommes. Les femmes, elles aiment les hommes à femmes. Une femme sans homme, elle n'a pas de flamme. Un homme sans femme, il reste en panne. Mais toujours la femme varie près d'un mari qui est comme la pluie, froide et la pluie chaude des brunes. Près d'un mari qui est comme la lune, près d'un mari cousu de thunes. Froide et la pluie chaude des blondes, près d'un mari à tête ronde, près d'un mari comme tout le monde. La vie s'envole et quand on s'affale, hélas il est trop tard d'agiter son mouchoir. Les hommes aiment les femmes à hommes, les femmes elles aiment les hommes à femmes. Au paradis y a plus de flammes, au paradis s'en vont les âmes. Alors elles crèvent d'ennui et se rappellent toutes les folies qu'elles auraient pu se payer sur terre. Elles rêvent à la fermeture éclair d'un air si fier. Elle rêve des divans profonds entrevus dans les garçonnières. Mon Dieu, pourquoi fiche de manière. La vie s'envole et quand on s'affale, hélas il est trop tard pour mordre son mouchoir. Les hommes aiment les femmes à hommes, les femmes elles aiment les hommes à femmes. Certains curés tombent les dames, même parfois les nonnes s'enflamment pour d'abominables hommes des plages qui les entraînent à la nage. Amours aquatiques sauvages, faites la vie d'hommes honnêtes, Catherinettes et nonnettes, brunes ou blondes, minces ou rondes, vous êtes sur la map monde pour prendre plaisir comme tout le monde. La vie s'envole et quand on s'affale, hélas il est trop tard pour mordre son mouchoir.
Elena. Ah, merveilleuse chanson.
Merci.
Toutes ces chansons sont absolument magnifiques. L'album est superbe. Rezvani.
Merci.
Sont des chansons de Serge Rezvani.
Oui.
D'ailleurs, l'album s'appelle Rezvani parce que vous écoutiez ces chansons quand vous étiez petite et vous n'arriviez pas à dire Rezvani.
Je croyais que c'était Rezvani, que c'était son nom. En fait, il a fait un disque où il chante tout seul. Il a enregistré des chansons lui-même avec sa guitare. C'est tellement sauvage et libre et incroyable qu'un monsieur s'appelle Rezvani. C'était tout à fait normal par rapport à ce disque. Et j'ai découvert son nom comme il l'est, Rezvani, en achetant le testament amoureux. Je me suis dit, ah bon, c'est comme ça. Donc je trouvais ça plus joli que Elena chante Rezvani. Il y avait un côté Ute Lemper chante Piaf. Je trouvais que c'était bien de mettre Elena Rezvani, de coller les deux noms comme ça.
En plus, c'est bien parce que vous chantez ça avec une espèce de malice et d'ironie qui est très plaisante.
Non, c'est gentil.
Moi, j'adore votre voix et j'y ai réfléchi parce que je me suis dit, finalement, c'est assez rare. Vous avez une voix qui ressemble à votre sourire.
Ah,
vous avez
d'accord.
Un truc dans la commissure des lèvres et ce truc mutin, un peu coquin, mais
c'est
enfantin,
gentil.
C'est exactement dans votre sourire.
Mais c'est peut-être parce que je chante en riant. En fait, je ris tout le temps. Ça me fait rire de chanter. Il y a quelque chose de joyeux. Ça me fait.
Moi, je trouve que vous avez une voix très élégante.
Merci, c'est gentil.
Elle va dans les aigus, dans les graves, etc. Et justement, je voulais vous demander, vous dites que vous aviez la voix de Jeanne Moreau, évidemment, en chantant en tête. Comment on fait pour. Parce que vous n'avez pas cherché à changer la musique ou à mettre des accents plus bossa. Ou...
Non.
Comment vous avez fait pour.
Bonjour,
pour
c'est Jeanne Moreau.
Comme ça.
C'est genre. Pour s'en
je
aller.
Je crois en force
ça.
De l'esprit.
c'était un petit peu. C'est vrai que c'était compliqué. Au départ, on a fait avec Philippe Evenot. Là, qui est arrivé finalement, qui est le guitariste avec qui je travaille depuis des années. Donc on a pris les chansons, puis on les faisait telles quelles, et là on s'est rendu compte que ça valait pas le coup. Donc voilà, on s'est un peu réapproprié les choses, comme si c'était des chansons que je venais d'écrire moi, et comment on les simplifierait, comment moi je les mettrais en bouche, comme changer le phrasé. Mais c'est vrai que c'est compliqué quand ça fait 30 ans qu'on a Jeanne Moreau en tête, et puis les morceaux sont quand même très très bien arrangés et très bien chantés par elle, donc je voyais pas pourquoi, et puis heureusement Serge, donc Rezvani,
que vous avez fait monter sur scène pour la première
fois.
Oui,
il est venu chanter avec moi. Parce que j'adore comme il chante. Il y a quelque chose de... Ce qui est beau et libérateur à voir, c'est quelqu'un qui ose monter sur scène en jouant comme une patate et en chantant bizarrement.
Et il y en a plein de comme
mais
ça. Oui.
Mais c'est, dans la vie, faut le dire que Rezvani est un homme délicieux, adorable et
merveilleux. Ah, mais quand je dis qu'il joue comme une patate, c'est un compliment.
Hein. Oui,
c'est
bien
pas,
sûr.
Il faut pas essayer de le sauver. J'adore. Mais je trouve ça merveilleux parce qu'il est à tempo. Et il fait vraiment, il raconte son histoire en fait. On est au-delà de la musique. Et moi qui suis quelqu'un qui fait toujours la bonne élève, qui veut tout faire bien, ça m'a libérée de le voir lui et de me dire mais oui, en fait, il suffit d'avoir un truc à dire et peu importe quelle forme ça prend. Et voilà. Et ce type-là,
il y a plusieurs duos. Il y a un duo avec Vincent Delerme, avec Marie-France.
Avec
Philippe Catherine, évidemment.
Très drôle. La
Bécasse, c'est très, très drôle.
Et avec
Rezvani. Moi, j'ai adoré, le Caresse-moi, j'adore ça. Ouais.
Mais elle a été écrite pour vous, celle-là. Caresse-moi, elle est drôle.
C'est l'inédite qui l'a écrite. Écoutez, je sais
ça
pas.
Ça fait plaisir.
Elle est mignonne, oui, elle est jolie. Et puis, mais c'était marrant quand il m'a dit, j'ai écrit une chanson pour toi. Ça s'appelle Caresse-moi, j'adore ça. C'est bon.
Mais comment? Parce que vous avez fait des concerts, là, ensemble, en septembre. Comment s'est fait la première fois la rencontre entre vous deux, entre Rezvani et vous?
En fait, c'était un hommage. Il y a une librairie aux Abbesses qui est tenue par Marie-Rose, qui est une dingue, qui a décidé d'organiser un hommage à Rezvani pour son dernier livre qui sortait chez Actes Sud en septembre dernier. Et donc voilà, j'étais sur l'échelle dans la librairie, je cherchais un bouquin et d'un seul coup, ça lui est venu. Elle m'a dit « Pourquoi tu ne viendrais pas chanter à cet hommage ?» Donc j'y suis allée et puis voilà, il est venu me voir après. Il aimait bien mes versions. Donc il m'a un peu, c'est lui qui m'a permis de reprendre le flambeau. Moi j'y avais jamais pensé, je m'étais pas permis même l'idée de reprendre ces chansons là qui étaient quand même bien comme elles étaient. Je voyais pas du tout, enfin je m'étais pas j'avais pas rêvé de ça. Donc il m'a dit c'est joli, faites-le. J'ai dit ben ouais, c'est... Puis j'étais fan quand même de lui, hein. Moi j'étais fascinée, c'est un homme qui me fascine au-delà de ses chansons, il me fascine pour...
Comme peintre, comme écrivain.
Voilà,
comme...
son choix de vie, son histoire d'amour avec Daniel. Maintenant il en vit une merveilleuse avec
Marie-José Nat.
Mais c'est merveilleux, c'est un amoureux qui parlait des femmes, en tout cas de sa femme, mais donc des femmes pour nous, femmes, quand on lit. C'était, voilà, j'étais fascinée, pour moi il était plus qu'un homme, il était un sentiment, il était une sensation, il était un idéal. Et donc quand il m'a dit... J'aime quand vous chantez mes chansons. Je me suis dit, ben merde, alors on y va. Alors,
il a changé.
Vous voyez, Philippe, qu'il y a des filles qui lisent.
C'est frais, Svani. C'est très frais.
C'est gourmand.
Cette chanson que vous nous avez interprétée, La vie s'envole, il a modifié les paroles. Parce qu'il l'avait écrite dans les années 60, elle était un brin macho. Puisque je crois qu'on disait dans...
Une femme sans homme,
N'a pas d'âme.
Et après, il y avait brune ou blonde, minceuse ou ronde, vous êtes sur la map monde pour faire plaisir à tout le monde. Et en effet, pendant l'enregistrement, il m'a dit, oh là là, on va changer ça. Parce qu'à l'époque, je ne pense pas que ce soit un macho de l'époque qui s'est converti.
Si.
Non, je ne crois pas. Je crois que c'est aussi quelque chose qui est dans l'air du temps. Enfin,
c'est aussi qu'on n'a plus le droit de rien dire.
Une femme sans âme n'a pas d'homme.
Voilà, ça aurait pu être ça. Mais voilà, il s'est rendu compte qu'il y avait peut-être des idées qui malgré lui passait dans son langage et qu'il avait le temps de réfléchir à tout ça et de se dire bon non, pour une ou blonde, minceuse ou ronde, vous êtes sur la map monde pour prendre plaisir comme tout le monde. Voilà ce qu'il a.
Il faudrait changer aussi la mémoire qui flanche parce qu'il y a des gens qui ont l'Alzheimer et ils peuvent mal le prendre.
Ah oui, ça va être c'est pas politiquement correct.
Oui, alors on peut rappeler quels sont les morceaux qui vous ont plu. Moi j'ai évidemment le tourbillon parce que
moi,
ça a été
Napoléon, j'adore.
Ah oui, Napoléon bien sûr.
Pas Napoléon.
Oui.
C'est
Napoléon. Non, parce que quand j'étais petit, je pensais à Napoléon.
Moi aussi, je lui ai demandé si c'était une blague. Il m'a jamais répondu.
Oui, c'est une blague. Hein.
Oui, c'est,
on imagine.
Napoléon, c'est... oui, c'est un jeu de mots. Ouais.
Ah bon?
Et puis, La vie de cocagne, évidemment. Mais j'ai la mémoire qui flanche, Les mots de rien. Non, c'est vraiment toutes les chansons qu'on a entendues. Vous les connaissez toutes?
Bien sûr.
Bien sûr.
Mais le coup de du bas qui nous ment à Tire-la-Rigaud depuis tout.
Mais alors, ça prend une autre signification avec cette voix de Léna. C'est beau. C'est beau. Je préfère quand c'est chanté par une femme de l'intérieur. Oui.
Merci.
Léna, cela dit, ça a complètement court-circuité votre propre album qu'on attendait avec impatience.
Oui, j'étais partie. En plus, pour la première fois, j'étais partie dans une idée d'indépendance. Je me passais de compositeur, de ce qu'on appelle les Pygmalions. Vous me souvenez, je suis très allergique à ce mot. Donc voilà, je m'étais lancée dans une quête comme ça d'indépendance et je finis par n'être plus que l'interprète de ce magicien. Mais ça me va, je me dis, c'est peut-être une étape, la dernière, où finalement je me remets complètement aux mains de quelqu'un pour pouvoir...
Ça dépend des Pygmalions surtout.
aussi. Mais j'aime pas l'idée de Pygmalion. C'est vrai que souvent, on est réduite à ça, alors que ce sont des collaborateurs. Moi, quand j'ai travaillé avec Catherine, que j'adore, il a fait des jolies choses. Mais enfin, j'ai collaboré à lui comme il a collaboré bien à sûr. Moi. Mais très vite, comme vous êtes une jeune femme, vous mettez des jolies robes et que vous mettez un peu de rimmel, vous êtes pygmalionnée par quelqu'un. Alors que
vous ne voulez pas être quelque part. De toute façon, vous aimez être un peu partout et choisir, être un électron libre.
Oui, voilà, j'aime faire ce qui me plaît. Ce qui est toujours à peu près la même chose, c'est que je prends des vecteurs différents pour raconter des histoires. Soit je suis la matière de l'un, soit c'est moi qui triture la matière. Mais c'est vrai que j'aime bien, en tout cas, passer d'un vecteur à un autre, d'un support à un autre.
Ah, ça, c'est le répertoire de Brigitte Bardot. Je me donne à qui me plaît.
Voilà, ben oui, ça m'aurait plu aussi. Mais je ferais après d'ailleurs. Chante Bardot.
Ça vous irait bien.
Oui. Ouais. Exactement, donc voilà, faire ce qui me plaît. Et puis je crois que j'ai une capacité à l'ennui très grande, donc ça me permet de ne pas m'ennuyer.
Je dois vous dire que Philippe Solers boit vos paroles comme du petit lait. Il dodeline la tête.
Vous savez, il est très connu de Sébastien Botin.
Vous n'aimez pas vous ennuyer ?
Non,
alors on est fait là pour l'autre.
Très bien.
Oui, mais vous aimez de rien faire.
Ensemble.
Vous avez décidé de rien faire.
Marie Nimier écrit beaucoup de chansons. Vous en avez écrites quelques-unes ?
Non, mais je pense à un prochain album, parce que j'en ai marre d'écrire quand même. Et mon prochain album sera du rap. Je peux vous
Oui.
Ça commence bien.
Ce qu'écrit Solers, je le comprends pas, mais ça fait rien, j'aime quand même ça. C'est mes narines qui lisent les mots, c'est de la bonne blanche, et puis c'est beau.
Je vous dis pas le papier dans l'Express la semaine prochaine.
Ah oui, les tables tournent là.
Alors après ça, il y a un cœur derrière, féminin, bien sûr. Vous dites ouh, solaire.
Oui, les dames du féminin.
On va rajeunir un peu tout ça.
Oh là, vas-y, Solers, vas-y, ouais, Solers, MC Solers.
Ah, Diams, ah oui, je chante, avec Diams, je chante.
Avec Diams.
C'est de la bonne blanche et puis c'est beau.
Oui,
c'est mes narines qui lisent les mots.
Maximum respire, Robert.
On va se calmer, hein, Philippe, quand même.
Vous connaissez le secret de Philippe.
C'est
tous les midis, un Bloody Mary et un œuf maillot.
Tous les matins, lire Voltaire.
Ah, ça. 13 volumes dans la Pléiade, vous ouvrez à peu près n'importe où, votre journée est gagnée, c'est électrique, c'est absolument... Tiens, je parlais de Flaubert tout à l'heure, Flaubert n'arrête pas de dire « je voue un culte à Voltaire ». Et les ennemis de Voltaire sont tous voués à être ridicules. Alors, n'oubliez pas qu'il est toujours en train d'une grande tristesse d'être submergé par la bêtise. Alors si vous êtes submergé par la bêtise, une lettre de Voltaire, ça va tout de suite mieux. Beaucoup mieux que des vitamines ou du Prozac, croyez-moi.
Mais au fond, votre vie vous dépasse là maintenant, Philippe. Vous êtes le sujet de certaines biographies. J'ai lu celle de Gérard de Cortance qui vient de sortir en folio, qui est très
excellente,
bonne.
Excellente
collection, folio également.
On écrit de très bonnes choses sur vous.
Il y a de belles photos en plus. Voilà. Et vous disiez que Pygmalion. Non, je vais vous dire, vous êtes très belle, quoi.
Merci. Hein,
non, c'est vrai. Et ça, c'est un handicap, vous savez.
Bah, ça dépend, c'est une force aussi.
Vous seriez un peu moche, vous seriez crédité d'une profondeur autonome.
Mais l'avantage, c'est que ça vient, c'est-à-dire que je vais m'amochir, et donc on me trouvera enfin.
On vous amochira.
Ah, vous trouvez que c'est un handicap pour une femme?
Non, pour un homme aussi, c'est un handicap. Ouais. Parce qu'on est destitué de toute profondeur. Mmh. Hein, si c'est beau en surface, ça veut dire qu'on n'a pas d'âme. Donc, il vaudrait mieux, par exemple, que...
Toutes les civilisations n'ont pas pensé ça.
C'est ce que Casanova appelle avoir le suffrage à vue. Mmh. Alors, évidemment, jeune, on peut avoir ce suffrage à vue, mais c'est très handicapant, quand même. Parce qu'on est... On est désiré, Elena. Elle doit chaque fois prouver qu'elle a une intériorité, une autonomie, une liberté, etc. Qu'on n'est pas là simplement pour être tripoté, n'est-ce pas? Voilà.
Cela dit, nous, on a la chance d'entendre.
C'est bien,
ça.
C'est bien aussi.
Caresse-moi, j'adore ça. C'est un des titres de l'album.
Oui, c'est bien aussi, mais ça ne suffit pas pour remplir les journées, la vie. Il faut effectivement d'autres choses.
Exactement.
Oui. Vous savez quelle est la devise de Solers?
Non.
Pour vivre caché, vivons heureux.
Voilà.
Pas mal.
D'accord.
Pas mal. Hein. Ouais. Ouais. Ah. C'est le contraire de pauvre. Ouais, bah, voilà.
Ouais. Chaque fois qu'on parle de vous, vous si dites pas mal. Ça devient.
Pas mal, c'est pas bien.
C'est bien.
Oui, c'est bien. C'est même très bien.
Est-ce que vous êtes content de vous?
Non.
La question.
Non. Content. Non, pas content. Je suis extrêmement sensible au fait d'exister. C'est tout à fait autre chose. Je ne suis pas content de moi. Je n'ai rien fait encore. Je vous dis, je vais. Non, je. Non, je.
Mais est-ce que vous avez.
Vous verrez mon album, nom de Dieu. Ah.
À 78 tours, ça va.
Et à 78 ans.
Absolument.
Pas encore.
Absolument.
Et vous lire dans du papier Bible, c'est.
Il y en a d'autres avant lui, quand même, à mettre Fitzgerald.
À l'Académie.
Il manque du monde. Hein.
Non.
Non, mais c'est votre envie. C'est votre
à l'Académie. Non, on retrouve des gens effrayants. Non.
Alors,
non,
on se retrouve.
Et puis, ça ferait baisser mes prix. Vous comprenez, j'ai un public très exigeant, très jeune d'ailleurs. Oui. Toutes les attaques que je reçois viennent de vieux.
Oui.
Les vieux ne m'aiment pas. Alors que les jeunes commencent à m'adorer. Bah oui, c'est pour ça que mon album fera sensation.
Très bien.
Et donc voilà.
Je rappelle l'album d'Elena Noguera qui est formidable, vraiment. C'est une très jolie chanson de Rezvani. Fraise Vanille, c'est notre façon de dire Rezvani qui n'est pas simple à prononcer. On se retrouve avec Philippe Sayers dans un instant. Un vrai roman, ce sont ses mémoires, publiées chez Plon. Didier Porte nous rejoint et Daniel Morin aussi. À tout de suite.
Le fou du roi.
Et oui, avec nous, le fou du roi est de retour, avec nous, Philippe Sollers, dont la vie est un vrai roman. C'est pourquoi il publie ses mémoires chez Plon, et d'ailleurs un roman qu'il écrit tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes.
À l'instant même.
Quand
à l'instant
il n'écrit même, pas son CD. Oui,
peut-être va-t-il, il prépare un album de chansons de rap, peut-être va-t-il nous chanter du Mozart tout d'un coup, comme ça.
Pas tout de suite.
Pas tout de suite.
Si vous insistez.
Ah oui,
Ça, c'est la reine de la nuit, faites voilà. Ça.
Non, je ne sais pas, justement. Non,
la reine du.
Mais moi, c'est casse-gueule un peu, la reine de la nuit.
Je ne suis pas la reine de la nuit, voyons.
Non, mais
viva les femmes, viva le buon vino, sans telle gloria, gli all'umanità.
Voilà, chez les solaires dans ses œuvres. Avec nous, la reine du jour, c'est Elena Noguera, avec Rezvani, son nouvel album de chansons de Rezvani. Daniel Morin nous a rejoint pour nous parler du sport. Franck Jalibert au piano, Agnès Michaud, Julia Verne, Eric Neuf et tout de suite Didier Porte.
En tant que chroniqueur télé du Fou du Roi, j'annonce que je soutiens la candidature de Françoise de Panafieu au municipal à Paris. Après avoir regardé la web télévision de la candidate de l'UMP, Panaf TV, je suis convaincu, si on veut avoir de roboratifs sujets de rigolade dans les 5 années à venir, c'est Panaf qu'il vous faut. Oui, je dis qu'il vous faut parce que moi j'habite en banlieue. C'est pour ça que je la soutiens, je suis pas con non plus. Je récapitule. À l'instar de nombreuses personnalités politiques, Françoise de Panafieu veut absolument faire jeune, moderne, hip, overground, mainstream à donf. Elle a donc demandé à ses collaborateurs de lui fabriquer une web télé pour sa campagne, histoire de bien montrer aux masses boboïsantes parisiennes qu'elle est au tip-top du move de la cybercop. Et comme on pouvait s'y attendre, le résultat est gratiné. Une séquence en particulier fait un tabac sur Dailymotion depuis plusieurs jours. Un Parisien, pris au hasard dans la rue, pose une question sans concession à un jeune loup de l'UMP dont j'ai oublié le nom. « Oui, monsieur Duchemol, que comptez-vous faire pour agrandir les crèches et rétrécir les couloirs de bus ?» Contre-champ sur Duchemol en train de répondre, avec en arrière-plan un groupe de jeunes gens qui distribuent des tracts aux passants. Groupe de jeunes dans lequel on reconnaît qui, à votre avis ? Le Parisien pris au hasard qui vient à l'instant de poser une question sans concession au candidat. Et la plaisanterie va ainsi être rééditée 3 ou 4 fois. Chacun des militants UMP, distributeurs de tracts, aura droit de poser une question sans concession à son chef en tant que Parisien anonyme choisi au hasard. J'adore. Les mecs, on leur demande de fabriquer une web télé pour être top tendance et ils te font l'ORTF sous De Gaulle en 65. C'est là qu'on prend conscience qu'en politique, les bonnes vieilles méthodes restent les plus sûres. Pourquoi prendre le risque de donner la parole à de faux électeurs alors qu'il est tellement plus simple et plus efficace de faire voter des vrais mais morts? Une procédure éprouvée, directement d'urne à urne, gagnant-gagnant. Jean Tiberi, lui, n'a pas besoin de s'emmerder avec une web télé, il a un correspondant permanent au Père Lachaise, point bas. Sur le le site de Françoise de Panafieux, on trouve également un abécédaire de l'anoïste qui s'aventure vaillamment sur le terrain de l'humour caustique. Jeunisme oblige. Exemple. Comte Assaut, deux points, adjoint au maire chargé de l'environnement dont le nom se termine aussi mal qu'il avait commencé. Yes. Bah oui, il commence par con et se termine par saut. Ah, trop cruel. Faut faire gaffe parce que c'est à double tranchant ce genre de petit jeu. On pourrait aussi faire remarquer que pour peu qu'on ait la langue qui fourche, panafieux, ça pourrait commencer par panade et se terminer par vieux. Hein. Voilà. Bon, à part ça, je suis en train de lire vos mémoires, Philippe Solers, et je suis un peu surpris. Je n'avais lu qu'un seul de vos livres avant celui-ci. Je vous connaissais essentiellement par la télé. Hein, Philippe Solers, la providence des talk-shows, de l'esprit, de la répartie, une bonne tête de capuchon saint épicurien qu'aurait croisé les doigts sous sa soutane en prononçant son vœu de chasteté, avec l'œil qui frise et le regard qui pétille. C'est de la très bonne cam pour la télé, le panéliste idéal, une sorte de d'Ormesson avec le bicorne en moins et la prostate en plus. Un ambianceur né, ce gars-là est capable de te dérider le plus endurci d'épices vinaigres. Tu l'invites sur un plateau en même temps que Mola Omar et Christine Angot, et au bout d'un quart d'heure, t'as Mola Omar qui monte sur la table pour danser la tectonique en chantant Tata Yo-Yo, pendant que Christine Angot entame un pot-pourri des meilleures histoires de Guy Montagnier avec la voix de Raymond Barre. Voilà. C'est comme ça que je voyais Solers. J'avais également cru comprendre qu'il avait une forte inclination pour tout ce qui porte une tiare et roule en automobile debout. Ce qui n'est pas si répandu que cela dans les contrées germanopratines où il sévit. Eh bien, son nouveau livre le confirme, Philippe Solers est très branché pape. Il kiffe grave les souverains pontifes en général, et les deux derniers en particulier. Il a bien sûr un gros faible pour Jean-Paul II, la rockstar de la profession, qu'il a reçu personnellement et lui a fait croire qu'il avait lu le bouquin qu'il lui avait envoyé. Mais il ne néglige pas pour autant ce brave Benoît XVI, qui déchire moins sa mère que son prédécesseur au JMJ, certes, mais ne démérite pas dans ses spécialités la messe en latin et la béatification de type pas très catholique. C'est pour cette raison d'ailleurs que lorsque vous avez écrit il y a quelques années ce fameux papier dans lequel vous affichiez une coupable indulgence pour Édouard Balladur, monsieur Solers, je ne m'en suis pas formalisé, je me suis dit, il a dû craquer sur les chaussettes de cardinal d'Édouard et il essaye de se mettre bien avec pour qu'il les lui prête, histoire de flamber à la soirée qu'organise Catherine Millet au sous-sol de la coupole sur le thème « Plus il y a de goupillons, plus c'est bon ».
C'est trouvé.
Et oui, comme beaucoup de monde, je suppose, monsieur Solers, je vous percevais volontiers comme un solide libertin, pour ne pas dire un rude cavaleur. Je me disais que lorsque vous avez publié votre Casanova, vous aviez dû prendre très fort sur vous-même pour ne pas marquer autobiographie en dessous du titre. Je me suis fourvoyé, semble-t-il. En effet, dans un vrai roman, vous fustigez l'obsession sexuelle qui caractérise notre époque et vous expliquez que le sexe, c'est bien à condition de commencer jeune et de ne pas trop s'éterniser sur la question lorsque le déclin s'annonce. En vous lisant, je me suis dit, ce Solaire, c'est un sage. Il a compris qu'il faut savoir se ranger les voitures avant que la belle mécanique se grippe et de risquer de s'entendre répondre par le garagiste lors d'une ultime et désespérée tentative de contrôle technique. Allez, c'est pas si grave que ça, ça peut arriver à tout le monde, on n'aura qu'à réessayer un peu plus tard. J'étais sincèrement impressionné par ce sens du renoncement, cette grande sagesse, somme toute prévisible, de la part d'un orientaliste aussi érudit que notre invité, jusqu'à ce que je voie Philippe Solers sur le plateau du Grand Journal de Canal+, il y a quelques jours, et que déboule sur le dit plateau la délicieuse et fort mutine préposée à la météo, la dénommée Louise Bourgoin, laquelle, disons-le tout net, est une pure bombe. Vous auriez vu comment Solers l'a regardé, on aurait dit Maïté en train de contempler un confit de canard après 6 mois de mission humanitaire au Darfour. Au secours! Alors que vous l'observiez, dans les yeux de la jeune femme, on pouvait lire la soudaine et muette interrogation suivante « Mais où sont donc passés mes habits ?» Pour un type qui vient de se convertir à l'abstinence, j'ai trouvé que vous aviez le regard encore bien chargé en testostérone. Moralité, chers auditeurs, lisez le bouquin de Philippe Solers, car il le mérite, mais en ayant à l'esprit que le titre « Un vrai roman » est peut-être incomplet, en fait, ça devrait s'appeler « Le vrai roman d'un authentique faux cul ». Bon week-end.
C'était Didier Porte. C'est vrai, vous l'écrivez très justement, Philippe, les médias me croient, noceurs, coureurs, cupides, pubards. Mais au fond, c'est vrai ou c'est pas vrai? Enfin, vous l'êtes réellement? Vous l'êtes...
Non, enfin...
Oui, on le croit vraiment, mais est-ce que vous
l'êtes? On le croit, oui. Mais ça m'arrange. Pendant ce temps-là, comme on dit dans les films muets, vous vous rappelez, c'est merveilleux. Oh,
vous avez... Pendant ce temps-là, à Veracruz...
Pendant ce temps-là, il fait tout à fait autre chose. Moi, je m'arrange comme ça, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que j'évite la marginalisation, j'évite d'être vénéré comme ces écrivains qui c'est l'hommage de vie. Ça, vous regardez Julien Gracq, par exemple, finir sa vie à Saint-Florent-le-Vieil, attendre des pèlerinages qui viennent recueillir vos moindres paroles. Julien Gracq dit, par exemple, tiens, le temps se couvre aujourd'hui. Et on trouve tout de suite un article pour dire Julien Gracq.
Vous lui réglez son compte à Julien Gracq, voilà. Vous vous dites, donc, j'ai découvert qu'il n'aimait pas Mozart, alors point, quoi.
Ah oui, c'est vrai. Ouais, oui. Ouais. Oui. Mmh. Ça, quand on me dit qu'on n'aime pas Mozart, en général, j'appelle un taxi, oui.
Ça va être dur aujourd'hui.
Ça fait rien, j'attends.
C'est-à-dire, si vous êtes chez vous, c'est pas gênant. Je vous propose maintenant de poursuivre en musique avec Elena Noguera, ici présente. Oui. Vous voyez, Didier, il a toujours l'œil qui frise quand il regarde Elena Noguera. Pour une reprise, toujours de Serge Resvani, La vie de cocagne. Ça, c'est pour me faire plaisir. Elle est accompagnée par Franck Gélibert au piano.
Je rêve toujours de me tirer, de me barrer, de me tailler, de foutre le camp. Moi qu'aimerais tant m'arrêter de cavaler, prendre le temps d'avoir des chats, des petits chats, des chiens et pas d'enfants. Un vieux fauteuil au coin du feu pour me laisser glisser à deux, avoir mes bouquins sous la main qui s'ouvrent de même aux pages que l'on aime et qu'on relit sans fin parce qu'on les aime. Un petit clocher de cocagne que j'entendrai tinter l'hiver tout comme l'été, la nuit, le jour sur ma campagne me donnerait envie de ne plus changer ma vie. On verrait chaque soir tourbillon fou du monde devant la télé, nos chats, nos chiens oubliant à nos pieds à poings fermés. Et au dehors, le vent d'hiver se donnerait un mal de chien pour faire plier les peupliers que nous aurions plantés à deux. Et les soirées d'automne couleraient douces et monotones. Et chaque nuit, on se dirait chérie, on réveillonne. Quelle petite vie de cocagne, l'hiver tout comme l'été, je pourrais pas m'enlacer. La nuit, le jour sur ma campagne me donnerait envie de ne plus changer ma vie. Mais voilà qu'il faut me tirer, me barrer, me tailler, foutre le camp. Je n'ai même pas le temps de m'arrêter un instant loin du présent. Adieu mes chats, mes jolis chats, mes chiens, adieu le vent. Ce vieux fauteuil au coin du feu, je m'y serais jamais planqué à deux. Ce bête, ce rêve que je fais chaque jour dans ma petite auto, rentrant du boulot, qui pourrit ma vie de nostalgie.
Elena Noguera, merci Elena. Et merci à Franck Gélibert. Je vous rappelle le titre du dernier album d'Elena Noguera, Fraise Vanille, des chansons de Serge Resvani. Elle sera en concert le 1er février 2008 au Bataclan. Et plus d'informations sur le site du Fou du Roi sur franceinter.com. Ah, pour, nous sommes toujours avec Philippe Solers. Hein,
Dans ma petite auto, hein, en rentrant du boulot.
Il est dans la voiture avec Elena.
Là, il est déjà parti avec Elena. Eh bien, on va faire un peu de sport, vous voulez bien ?
Ah oui.
Avec Daniel Morin.
Gros dossier natation aujourd'hui avec Laure Manaudou qui va bien. En compétition en Allemagne, la Française a rassuré. À 10 mois des Jeux Olympiques de Pékin, elle montre une belle forme et tout a l'air de bien se passer avec son frère Nicolas qui l'entraîne. Tout le monde se souvient de son départ fracassant et de sa rupture avec son entraîneur légendaire Philippe Lucas. Lucas où l'entraîneur a la poigne de fer, il prend en charge des filles à l'âge de 5 ans, il les nourrit au pal, goût, poisson, au PO, il les met à la muscu 10 heures par jour et les 14 heures restantes, il les fait tremper. Physiquement, ça paye, mais intellectuellement, ça abîme. En général, les nageuses deviennent rarement des prix Nobel. Une nageuse, même quand elle sort de l'eau, quand elle est sortie de l'eau depuis plusieurs jours, quand elle secoue la tête, ça fait toujours floc-floc. Laure Manaudou, tu colles ton oreille à son crâne, t'entends le bruit des vagues. Quand
c'est
elle est
pas
en...
vrai, c'est pas vrai.
Oh, si, je l'ai vu en conférence de presse, justement. C'est douloureux pour elle. Quand on lui pose une question, ça se voit sur son visage, hein, pour trouver une réponse. Même quand elle réfléchit, c'est rarement marée haute. Une fois, je l'ai vu bloquée sur une question, elle est restée 2 minutes la bouche ouverte. J'ai même eu le temps d'apercevoir la patte d'un Bernard l'ermite. Vous savez, ces bestioles qui vivent dans des coquilles vides. Pour en revenir à Philippe Lucas, ça doit pas être facile tous les jours de bosser avec lui. On la comprend un peu, la petite, qu'elle se soit barrée. Lucas, c'est pas un entraîneur, c'est un style de vie. Faut passer sur le look, c'est pas évident. Ah bah c'est une épreuve, hein. Tous les jours devant toi, un type qui ressemble à Johnny Hallyday qui sortirait de l'essoreuse. Avec autour du cou assez de chaînes en or et de bracelets pour racheter la dette africaine. Le tout avec un regard de grand déséquilibré mental. À côté du sien, le regard d'Emile Louis, c'est un clin d'œil de Teletubbies. Ce mec-là, la seule nana avec qui je puisse l'imaginer en couple, c'est Roselyne Bachelot. Roselyne, vous vous souvenez, pendant la Coupe du Monde de rugby, tellement fan de Sébastien Chabal que pour lui rendre hommage, elle avait laissé pousser tous ses poils pendant 4 semaines. Pour le dernier match de l'équipe de France, on aurait cru que dans la tribune présidentielle, il y avait Chewbacca en tailleur rose.
Pardon.
Enfin, déjà au bout de 15 jours, hein, les collègues, ils n'en pouvaient plus de Roselyne et de ses poils. Fillon annulait les conseils des ministres les jours de pluie, tellement ça sentait le chien mouillé à Matignon. Bon, tout ça pour dire que c'est exactement le genre de femme qui conviendrait à Philippe Lucas. Ah, le souci, c'est qu'en natation, le poil est proscrit. Ça prend l'eau et ça ralentit. Ah bah, Roselyne de moi, sans esthéticienne, tu la plonges dans une piscine, elle ressort, elle emporte la moitié de la flotte. Hein. Tout le monde à pied. Hein. Puis les filles comme Manodou, si tu leur dis pas qu'il faut sortir du bassin pour qu'on le remplisse à nouveau, elles continuent de nager sur le carrelage. Lucas et Roselyne, ça pourrait être le couple star des années 2000. La bête et la bête. Rien que d'y penser, j'ai le tournis. Enfin, Philippe Lucas, c'est du passé. Pour l'or, aujourd'hui, son entraîneur, c'est son frère, Nicolas. Bon, il débute, hein, faut pas trop en demander. Il a encore qu'une seule chaîne en or autour du cou, hein, mais on est confiant pour lui. L'or entame aujourd'hui la Coupe de France à Montpellier, où elle est engagée dans cette course. Bonne chance. Alors, puisqu'on parle de natation, je ne sais pas si vous êtes au courant, camarades auditeurs, mais c'est le sport préféré de son Altesse, Stéphane. Tous les dimanches, il nous emmène à l'église pour assister à la messe grecque prononcée par le rabbin Nikos Aliagas. Après, on va à la piscine, dans le bassin Maria Callas. Évidemment, son excellence demande que le bassin soit vidé et purifié. Il met son maillot de bain Sporting Club de Monaco, un très joli string rouge et blanc. Et enfin, il enfile son bonnet de bain Nana Mouskouri avec lunettes intégrées. C'est toujours le même rituel, il saute dans l'eau en criant « Youpi, c'est moi Flipper le dauphin !» Il nous demande de regarder nager en l'applaudissant, il fait de longueur, puis il ressort. Il nous demande de le sécher en lui soufflant dessus. De temps en temps, quand il a le temps d'aller au marché, il nous demande de manger de la feta avant de lui souffler dessus, ça lui rappelle ses vacances. Une fois sec, il monte sur la chaise du maître nageur et nous ordonne de nager pour qu'on garde la forme. Alors les plus méritants d'entre nous ont le droit de poser la tête sur le bord du bassin, la bouche ouverte, pour que Stéphane nous lance des petits poissons morts. Ah ben c'est des chouettes moments, hein. Bon, sauf dimanche dernier. Didier Porte soutenait la grève. Il était en service réduit, il a nagé que d'un bras. Du coup, il a nagé en rond pendant 1 heure, il est sorti, il avait la nausée. Alors pour conclure, hein, des petites nouvelles du monde de la boxe, des nouvelles de Mike Tyson. Il a été condamné à 24 heures de prison pour détention de drogue. Alors beaucoup disent que 24 heures, c'est pas assez, c'est rien du tout. Je ne sais pas si c'est un avis qui est partagé par le futur compagnon de cellule de Mike Tyson. Parce que Mike, s'il t'aime pas, t'es mal. Et 24 heures avec un Tyson qui t'aime pas, ça doit être long. Et s'il t'aime, t'es super mal. 24 heures avec un Tyson qui t'aime, c'est super long. Bon week-end.
C'était Daniel Morin. Bon, j'en profite pour vous donner les invités de la semaine prochaine. Ça va vous intéresser. Qui va vous succéder sur ce fauteuil
diffusé? Ah si, lundi.
Oui, lundi. Jean-Pierre Marielle, ouais. Sylvie Testu et Jean-Laurent Cochet. Bon. Mardi, Sophie Davant, Yolaine Delabigne et Patrick Roger, le pâtissier. Enfin, le chocolatier, pardon. Mercredi, Jacques Gamblin, François Morel et Thomas Fersen. Jeudi, Victoria Abril et Jean-François Kahn. Et vendredi prochain,
le
Nathalie Dess.
La, fin. La oui. tête de Philippe Solers quand vous dites Jean-François Kahn.
Non, le meilleur pour
Victoria
la
Victoria Abril et Jean-François Kahn, mais c'est un couple d'enfer.
Oui, on forme des couples ici aussi. Nathalie Dessay et Olivia Ruiz pour vendredi prochain. Nathalie Dessay, voilà, c'est merveilleuse. J'attends vendredi avec impatience.
Elle pourra chanter la reine de la nuit.
Voilà. Elle, au moins. Elle. Vous m'avez toujours pas répondu. On en est où politiquement? Parce que je vous avais abandonné. Enfin, vous On vous avait quitté avec Ségolène Royal.
Oui, quittez-moi.
Non. Et depuis, on n'avait plus de nouvelles de vos errements politiques.
Mais écoutez, là, je me suis mis en position d'ironiste surplombant. Voilà. Vous allez me lire, j'espère, tous et toutes, dimanche prochain dans le journal du dimanche.
Bien sûr, on vous lit.
Alors, la politique devient pour moi un rêve maintenant, n'est-ce pas, Et donc, on sonne chez moi à 6h du matin l'autre jour. On tambourine même. Et je vais en pyjama ouvrir. Parce que je me dis, il doit y avoir un incendie dans l'immeuble, si tôt, comme ça. Ouais. Et j'ouvre la porte et Nicolas Sarkozy lui-même, avec des gardes du corps très dissuasifs. Et alors il rentre, il fait comme chez lui, comme il a l'habitude de faire, parce que de toute façon il est en avion, même sans avion. Et il me dit, je viens écrire votre article du journal du dimanche à votre place.
Ah, c'est ça.
Voilà. Donc voilà où j'en suis politiquement.
Oui, très bien. Et ça vous plaît ou...
Non, ça me dérange plutôt.
Mais ça vous dérange.
Je trouve qu'on est dans une ère de vulgarité quand même très, très profonde. Voilà. Là, la politique s'arrête et c'est le goût qui condamne.
Et du coup, ça fait du bien de relire ce fameux texte sur la France moisie, parce que finalement, ce n'est pas la souveraineté nationale que la France moisie a perdue, mais sa souveraineté spirituelle. Et ça, on a du mal à pouvoir dire le contraire.
N'est-ce pas, les discours de Guénaud pour Sarkozy passent sans transition, c'est très étrange comme vision de l'histoire, des cathédrales, des croisades, vous avez peut-être remarqué, à Léon Blum et Jean Jaurès. On saute à peu près 3 ou 4 siècles qui m'intéressent quand même. Hein. C'est-à-dire, il y a Montaigne au 16e, il y a Louis XIV, il y a beaucoup d'écrivains au 18e. Enfin, voilà. Il ne semble pas que ça soit dans le registre du pouvoir actuel. On passe des croisades à Jean Jaurès. Jean Jaurès, tu parles pour rire. Non, en réalité, l'argent, c'est tout. C'est tout ce qu'ils ont
dit. Et le sexe, c'est ce que vous
dites. Non, le sexe ou le sexe.
Oui, vulgaire, devenu vulgaire et laid.
Industrialisé, donc de très. Oui, obligatoire presque. C'est pour ça qu'il vaut mieux s'abstenir. C'est plus vicieux de s'abstenir. Absolument. Pour revenir deux secondes sur les papes. Religieux, je ne suis pas. Je trouve la morale sexuelle de l'Église catholique absolument aberrante, à moins que ce soit une preuve d'humour noir. Bon, tout ça est idiot, c'est entendu. Cela dit, je n'aime pas qu'on vienne tirer des coups de revolver dans le ventre d'un pape. Hein. C'était Moscou qui était Moscou la gâteuse, comme a dit Aragon autrefois, qui était là derrière. J'aime pas ça. Et deuxièmement, vous auriez pu signaler dans votre présentation de Benoît XVI que c'est quand même la première fois, à ma connaissance, qu'on voit un pape jouer du Mozart et tenir à le faire savoir au piano. Il a fait monter son piano dans ses appartements, il est là, il joue, et il joue assez, assez bien, vous savez. Un pape qui joue du Mozart,
c'est pas un mauvais pape.
C'est pas tous les jours, ça ne peut
pas être si... C'est mieux qu'un président qui joue de l'accordéon.
Oui. C'est mieux. Voilà. Donc je vais à Rome bientôt, alors je vais faire un peu de quatre mains avec le pape. Voilà. Ça ne pourra pas me faire de mal.
J'imagine qu'il y aura un photographe ce jour-là.
C'est en négociation.
Oh, je sais que vous ne nous laisserez pas dans l'expectative, vous nous le ferez savoir. Je veux dire.
Je viendrai vous montrer ça.
Très bien, volontiers. Merci Philippe Soler, c'est toujours une joie de vous accueillir. C'est un peu comme Bossuet, vous êtes...
Oui, ça fait. Oui. Tant pis pour l'Express qui n'a pas compris qu'on est bien chez Stéphane Bern.
D'autant, rassurez-vous, il y a plus d'auditeurs que l'Express n'a de lecteurs. Vous publiez un vrai roman, sans vos mémoires, chez Plon.
Lundi, ça commence comme Poésie et Vérité de Goethe, mais après c'est du Soler.
Je vous l'ai dit, lundi, nos invités sont Jean-Pierre Marielle, Sylvie Tessu et Jean-Laurent Cochet. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et vous retrouvez tout de suite Philippe Bertrand et ses carnets de campagne. Philippe.
Oui, bonjour Stéphane.
Bonjour.
Bonjour Philippe. Moi, je voudrais être petite souris un jour et entendre... sa sainteté, le pape, et Philippe Soler jouait du Thelonious Monk à Rome.
Je sais pas ça doit être sympathique.
Ah oui.
Enfin, nous, on n'a pas nos entrées au Vatican comme Philippe Soler. Ah, oui.
Écrivez-moi.
D'accord.
Oui, il a le bras long, Philippe Soler. Il peut beaucoup pour vous, pour votre carrière, Philippe.
Oh, oula, je m'en
et pour prête. Le salut de votre âme.
Merci, mon père.
Philippe Soler, c'est un salvateur. Merci, à demain. À lundi, pardon.
Salut.
Salut.